comment allez-vous? Bien, hein? En vrai? C'est la question qui est venue sur nous là quand nous nous sommes rencontrés ce matin. Pour ceux que nous avons pu rencontrer et pour les autres, ben, je vous dis ce matin, comment allez-vous? Et vous me dites. Bien. Et moi, je vais vous dire un secret. Je vais bien à 98%. Oui, c'est pas mal, mais les 2% qui manquent, ils me titillent et ils me font mal. Je vous parle de mes petits orteils qui, quand arrive la belle saison, trouvent très élégant de se parer de petits corps, C-O-R-S. Ça dit quand on enlève les chaussettes et les collants, le frottement, alors voilà. Mes deux petits orteils ont pris cette mamie et tous les ans, eh bien, j'y ai droit. Alors, eux, ils trouvent peut-être que c'est bien, mais moi, je trouve ça très inconfortable. Mais bon, quand vous me demandez comment je vais, je ne vais pas vous parler de mes pieds. Non. Et puis bon, j'ai intégré ça. Je sais que, voilà, ça va se passer comme ça. Ça se passe comme ça tous les étés. Et voilà, donc, oui, ça va. Non. Corps au pied compris. Mais quand, miracle, parce que c'est vraiment un miracle, j'obtiens un rendez-vous avec ma podologue, et qu'avec son savoir-faire, elle extirpe les 2 mm et demi de peau dure qui ont pris racine dans mes petits orteils. Quand je remets mes chaussures, je peux vous dire, oui, ça va. C'est un soulagement. Et je pense que ce qui se produit dans le naturel se produit aussi dans le spirituel et l'émotionnel. Dans nos vies spirituelles, c'est pareil. Combien de fois répondons-nous « ça va » alors qu'il y a des choses qui nous pèsent. Mais voilà, nous nous sommes habitués. Il faut traquer ces choses qui nous pèsent et que nous ne sommes plus en mesure d'identifier parce que voilà, c'est comme ça. Hein. Nous nous déportons et elles nous volent une part de notre joie. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose une toute petite vidéo. Vous l'avez certainement vu défiler sur vos écrans, mais au cas où. Voilà. Voilà, ça me parle beaucoup de mes journées, ça. Hein. Et même si la solution profonde ne résiste pas dans les tic-tacs, bien qu'il puisse en faire partie, de toute façon, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu. Voilà, je trouve cette petite vidéo illustre bien le verset que je vous propose de partager ce matin, avant de manger des tic-tacs. Matthieu 11, 28. Vous savez, ce verset, on le connaît. On l'a lu, relu, on en a même parlé l'été dernier. Je vous en ai parlé. En fait, je suis très concernée par tout ça, comme vous l'êtes tous. Alors, ne prenez pas comment dire, tout ce que je vais partager comme un regard. Non. Je me parle à moi-même d'abord. Hein. Donc, Matthieu 11, 28. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. Le plan de Dieu ne prévoit pas que tu continues, que je continue à porter des choses qui sont trop lourdes, des poids qui freinent ma marche. Tout ce qui va peser sur ton cœur, sur ton âme, sur ton esprit, tout ce qui t'empêche d'être libre, d'être joyeux, confiant, paisible, qui va avoir une influence sur toi, ben ça reste un fardeau, un habit de camouflage. Quand je te regarde, je ne le vois pas. Ton sourire donne le change. Et même toi, tu te laisses avoir. Tu dis, mais non, ça va. Hein? Pourtant, ces poids sont présents et ils assombrissent ton quotidien. Le verset nous dit, vous tous. Cela veut dire que, bien voilà, nous sommes tous concernés. Nous sommes prédisposés, comme le petit jeune homme là, à croiser des choses qui vont nous peser, qui vont nous atteindre, qui vont nous coller à la peau. Et ne soyons pas surpris. Ce n'est pas grave. Ce qui devient grave, c'est que nous continuons à porter ces choses qui nous blessent et qui nous touchent. Vous avez vu dans les transports, là, avec tous ces machins collés partout, vous dites qu'il n'est pas à l'aise. Ben, dans notre vie, même si ce n'est pas visible, c'est pareil. Et c'est malheureusement loin d'être un réflexe d'analyser et de déposer. Hein. Alors je prends tout ce qui me pèse, je fourre ça dans mon sac à dos, j'enfile et je l'amène partout. Et en fait, on le fait, mais ça fait partie de notre identité. Je suis chargé, c'est normal, je suis chargé, je suis humain. Ben non. Je vous parlais de déménagement. Nous avons habité au 12e étage, dans un immeuble, quand nous étions en région parisienne, avec un ascenseur affilié au MLA. Vous connaissez le MLA ? Non. C'est le mouvement de libération des ascenseurs. Et souvent, il utilisait son droit de grève. Alors quand vous arrivez au pied de l'ascenseur, que vous avez des courses, que vous avez la poussette avec le bébé, que vous montez, voilà, je ne vous en dis pas plus. Et la semaine, alors notre fils, qui avait 8 ans, il priait comme ça. Il disait, Seigneur, donne-nous une maison, que quand on va dehors, on soit par terre. Et Dieu a entendu sa prière, et il nous a donné une maison, que quand on ira dehors, on sera par terre. Donc, nous avons prévu le déménagement. Et nous avions prévu aussi de trimballer tout le contenu de nos armoires, les jouets, le linge, la vaisselle et tout le bazar qu'on a dans un appartement. Dans la semaine précédente, on s'est dit comme ça, le jour du déménagement avec un grand D, on n'aura que les meubles. Et bien voilà, le lundi, l'ascenseur a fait valoir son droit de grève. Je ne vous raconte pas parce que ça prendrait trop de temps. Mais voilà. Alors donc, tu es invité au déménagement de ton ami Mangia Fadzou, là. Vous connaissez Mangia Fadzou? Oui. Et il habite au 12e étage, et la veille du déménagement, il fait un texto. Oups, désolé, l'ascenseur est en panne. Tu aurais pu lui répondre, oups, désolé, j'ai un imprévu. Mais tu ne vas pas le faire, parce que tu es quelqu'un de fidèle. Et donc, tu vas chez lui, tu montes les 12 étages, tu arrives, et quand tu rejettes un regard dans l'appartement, tu te dis, mince, j'avais jamais remarqué qu'il avait tout ce bazar dans son appartement. Quand on passait des soirées, qu'on mangeait ensemble et tout, c'était chouette. Mais maintenant, il faut déménager, hein. Et donc, sur le palier, dans l'entrée, le premier voyage attend. Il y a la machine à laver. Ça va être sédouré, une machine à laver. Et puis il y a un sac posé dessus, c'est pas ce qu'il y a. Et ton ami te propose de prendre le sac que lui va prendre la machine. La machine à laver ne peut pas descendre les 12 étages toute seule. Même si certaines, en vieillissant, elles deviennent autonomes au niveau du déplacement pendant les orages. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Nous, on en a eu, on a été obligé de s'en séparer quand elle a appris à marcher. Hein. Et donc, tu es là, machine à laver et un sac lambda, tu ne sais pas ce qu'il y a, un sac mystère. Tu avais déjà grimpé les 12 étages, c'est long, 12 étages, je peux vous dire que c'est long. Pas vrai que c'est long? Ouais. Et lui, il te propose de prendre en charge le sac. Il te dit, c'est mon oreiller. Prends-en soin, mon oreiller en plume, j'y tiens. Et celui qui est posé sur la machine à laver, et il dit, moi, je vais me charger de la machine à laver. Et là, tu es là, tu te dis quand même, si je suis un copain bien, je vais lui dire, mais non, laisse tomber, je vais prendre la machine à laver, quand même. Alors, que vas-tu choisir de descendre sur les 12 étages? Est-ce que tu vas t'épuiser à porter la machine à laver, alors que ton ami te demande juste de prendre son oreiller et d'en prendre soin? Je ne sais pas pourquoi nous avons tendance à choisir de garder tout ce qui est lourd. Notre papa est pourtant clair dans son invitation. Venez à moi, vous tous qui portez des charges lourdes, et je vous donnerai le repos. Je ne pense pas que le repos, ça fait descendre une machine à laver sur 12 étages. Un oreiller, ça passe. Il dit, venez à moi, mon fardeau est doux et léger. C'est marrant, c'est un fardeau doux et léger. Hein. Je trouve que c'est... Alors j'ai dit, ça a un nom, cette tournure, et donc j'ai refouillé dans mes... ma mémoire, là, et je me suis rappelé que c'était, on appelle ça un oxymore. Pas vrai, maîtresse ? Enfin, madame, le professeur de français. Donc, vas-tu te battre pour porter la machine à laver, alors qu'on te propose de te charger de l'oreiller ? Et dans notre vie spirituelle, on se bat pour porter la machine à laver, et on refuse de porter l'oreiller. Vrai ou pas ? Nos charges, on les garde. Nos fardeaux, on les garde. Je ne sais pas pourquoi on le fait, je ne sais pas si c'est par habitude ou alors par sainteté. On se dit, ah ben, j'aurais un fauteuil plus confortable au ciel si j'ai beaucoup souffert sur terre. Mais non, non, non. Ça, ce n'est pas vrai. C'est des choses que vous avez entendues. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais enfant dans l'église où mes parents étaient. Mais non, la grâce de Dieu, elle est pour tous la même. Et tous les fauteuils seront aussi confortables au ciel. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça sera. Alors, je ne sais pas si on le fait par habitude, par empathie pour les autres, en disant non, je vais quand même prendre l'oreiller tranquillou, là. Et, non, non. Et de la même façon que mon corps, C-O-R-P-S, s'est habitué au petit corps, C-O-R-S, de mes petits orteils, bien mon esprit peut s'habituer à une blessure, à une peur, à un manque de pardon, à tout ce qui met la pression, tout ce qui pèse. Alors on s'habitue et on ne l'identifie plus. On se rend même par contre que ce n'est pas normal. J'ai souvent entendu cette réflexion, bon, que veux-tu pour vivre avec? Eh bien non. Tu peux vivre avec, aucun problème. Mais tu peux aussi choisir l'option de Dieu. Et quand on nous demande comment ça va, on dit ça va. Parce qu'on est persuadé que c'est la vérité. Bon, alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut se plaindre constamment et rendre notre entourage de rasténique. Non, 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 ce n'est pas du tout ce que Dieu dit. Il nous demande juste que nous déposions, que nous renoncions, que nous refusions d'accepter d'être écrasés et de faire comme si. Vivre chargé quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Enfin, tout au moins du point de vue de Dieu. Ce que nous sommes invités, je vais y arriver, à vivre chaque jour, c'est la paix, la joie, l'amour, ben, c'est l'oreiller du fruit de l'esprit. Et nous sommes tellement formatés que quand nous croisons une personne qui vit l'oreiller du fruit de l'esprit, on la regarde et puis on dit oh, ça va lui passer quand elle va remettre les pieds sur terre. Ben non, sûrement pas et surtout pas. Elle a compris. Et elle dévale les étages avec son oreiller quand tu te casses le dos avec ta machine à laver. Dieu ne veut pas que tu t'habitues aux choses écrasantes. Il t'invite à venir fouiller dans ta vie pour voir les couches qui stérilisent ta vie. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas bien, que tu ne te sens pas complètement? C'est quoi? Ça peut être des petits trucs, comme ça peut être des soucis énormes, comme ça peut être des mensonges, ou ça peut être des ressentis, mais complètement humains et négatifs. Jésus est ressuscité et il règne. Oui ou non? Ben voilà. Et ce qu'il veut, eh bien, il nous invite à rayonner des valeurs du royaume. Et ce n'est pas un gros effort pour moi, pour toi. Mais c'est juste parce que tu vas déposer tes fardeaux. Dieu t'en débarrasse. Et il remplit ton cœur de ses valeurs. C'est trop simple, c'est pas possible. À l'aide de la technologie, non, c'est pas ça, c'est pas, non. Ça, c'est comme si on me demandait de croire au Père Noël. Je suis pas sûre. Chaque jour, je dois alléger ma vie. Parce qu'on ne fait pas ça. Vous avez dit, ah oui, j'ai déposé mes fardeaux. Alors, c'était, attends, je me rappelle, c'était le 27 février 1990, c'est ça! Ce jour-là, j'ai déposé mes fardeaux. Ben non. C'est sûr, tu as déposé. Mais vous avez vu le jeune homme là? Le temps de traverser l'allée de son bureau là, eh ben, il a ramassé tout un tas de trucs. Et depuis le 27 février 1990, il y a plein de choses qui sont venues à l'autre de ta vie. C'est chaque jour que je dois alléger ma vie. à cause de ce que je peux vivre et qui va fissurer le pare-brise de mon cœur. Quand ton pare-brise est couvert d'impact, soit il explose et tu cours un grave danger, soit tu ne vois plus la route et c'est pas mieux. Alors il faut courir chez. C-A-R-G-L-A-S-S. Céleste, celui d'en haut, hein, pour qu'il prenne soin de tous tes impacts. Ça semble vécu? Le burn-out atteint souvent les personnes qui se chargent. Une machine à laver, deux machines à laver, trois machines à laver, et boum, un jour tu t'écroules. On dit, mais pourtant c'était une bonne chrétienne, c'était un bon chrétien. Mais pourquoi est-ce que tu t'écroules? Mais parce que tu n'étais pas déchargé. Tu n'étais pas déchargé à la première machine à laver. Tu as accumulé. Nous ne sommes pas à l'abri de cela, hein, même si nous sommes des gens bien. Soyons vigilants et déposons aussi souvent que nécessaire. Dès que tu sens quelque chose qui te pèse, va voir ton papa et dépose. Je pense que ce matin, Dieu nous alerte. Ça fait un moment que ce message tourne dans ma tête. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons réaliser pour aller plus loin. Alors, veux-tu entendre l'appel de Dieu avant que le trop-plein te mette KO? Vous savez, nous sommes humains. Et nous avons des qualités, des défauts. Et je crois que nous avons tous un petit machin, là, au fond de notre cœur, petit machin, hein, qui s'appelle l'orgueil. Ah non, non, moi je ne suis pas orgueilleux, mais franchement, mais tu vois pas que je suis l'humilité personnalisée, moi, si tu le dis, ok, d'accord. Alors si le mot orgueil ne te plaît pas, on va dire fierté. Nous avons notre fierté, vrai ou pas? Elle est parfois plus ou moins bien placée, mais voilà. Et je peux vous raconter une histoire qui se trouve dans 2 Rois 5. Vous la lirez à la maison, je vous la raconte. C'est l'histoire de M. Naaman. M. Naaman, c'était un gars très bien. Même le roi était son ami, pour vous dire que c'était un gars bien. En plus, c'était un excellent soldat. Il ramenait des victoires. Mais il avait un problème. Il était malade. Cette maladie, à l'époque de Naaman, n'avait pas d'autre issue que la mort. Chaque jour, il s'approchait de l'issue fatale. Je ne vous dis pas l'annonce à la maison. Hein. Et tout le monde était triste. Et puis un jour, une petite servante que ma maman avait ramenée de ses campagnes militaires dit à sa maîtresse, « Tu sais, maîtresse, nous, dans notre pays, à Samarie, on a un prophète qui guérit les malades. » Madame Naaman laisse tomber tout ce qu'elle avait à la main et elle court après son mari. « Chérie, tu sais pas, voilà ce qu'on a dit la petite. » Et ma maman pédale chez le roi. Il lui dit, voilà. Et le roi dit, ok, je te fais une lettre et tu vas. Et donc, tout s'organise, le voyage. Donc, Naaman arrive chez le roi. Il lui donne la lettre. Et cette lettre disait, je t'envoie Naaman, mon général en chef, pour que tu le guérisses de sa lettre. Mais le roi, qu'est-ce qu'il a vu dans cette lettre? Il a dit, mais moi, je ne sais pas faire ça. Et il a commencé à paniquer. Il s'est dit, ça y est, l'autre, il cherche la guerre. Il a commencé à paniquer, et la panique du roi est arrivée chez Élisée. Et Élisée a dit, envoie-le-moi. Et donc, changement de direction, le convoi s'ébranle, et ils arrivent devant chez Élisée, et Élisée envoie une ordonnance par un de ses serviteurs. Déjà, Naaman commence à voir rouge. Car même, j'ai fait tout ce trajet. Il sait que je suis malade, il sait que je suis général, il sait que je suis l'ami du roi. Et on envoie juste son serviteur, mais franchement, déjà ça passe pas. Et quand il lit la thérapie, alors là, c'est la fin des haricots. Hein. Ce que lui conseille Élisée pour guérir de sa lèpre, c'est 7 plouffes dans l'eau du Jourdain. N'importe quoi. Franchement. C'est une grosse crise, un général en colère, moi j'en ai jamais rencontré, mais je suppose que ça ne va pas être facile. Mais ses serviteurs, eux qui étaient des gens qui le côtoyaient, sûrement qu'ils avaient dû essuyer ses colères déjà, ils ont réussi à le raisonner. Et ils ont réussi à le faire capituler. Mais un homme a son fardeau et il veut le déposer. Il veut. Il veut. Il ne veut plus de cette lèpre qui le tue jour après jour. Il a organisé son expédition. Il a fait son scénario dans sa tête d'homme important. Et la solution proposée par Élisée, mais elle est facile. Plouf, 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 plouf. Et c'est fini. Mais tout ça, ça ne correspond pas. Le film que s'est fait énormément dans sa tête. Et cet homme réagit avec sa fierté. Et ça peut nous arriver, à moi et à toi. Le traitement ne correspond pas à tous les efforts qu'ont fait les acteurs de cette histoire. La solution paraît tellement simple et basique par rapport à la gravité de son fardeau et de sa position sociale que Naaman n'essaie même pas. Il tourne son char et dit « on rentre à la maison ». Combien de fois n'as-tu pas pensé que ton problème était trop compliqué pour que tu le déposes et que ça suffise ? Mais non, non, mon problème est spécial. Ça ne va pas marcher. Comment tu veux que ça marche? Déposer et c'est fini. Non, réfléchis un peu. Je ne peux pas faire ça et puis laisser Dieu gérer ma vie. C'est ma vie. Je veux être participant. Je veux faire aussi une partie. Je veux faire partie de la solution. Ce serait trop facile. Non, je ne peux pas accepter. Et la racine de cette réaction. N'aurait-elle pas un petit lien avec un petit chouïa d'orgueil ou de fierté mal placée? Les atouts de Naaman, ce qui va le sauver, c'est qui? Ce sont ses serviteurs. Et ses serviteurs, ils sont habitués à obéir. On leur donne un ordre, ils font ce qu'on leur dit. Ils vont aider son niveau à redescendre et à accepter ce qui lui avait été prescrit. Un bain dans le Boulanda. Et il a été débarrassé de sa maladie. Vous vous rendez compte? Juste 7 poufs dans une eau. Il y avait des fleurs chez eux aussi, hein. Il aurait pu faire ça chez lui. Mais voilà. C'était juste ce que Dieu lui avait demandé. Et pourquoi ça a marché? Parce que Dieu est Dieu. Et s'il te demande de déposer et que ça te semble basique, n'oublie pas. Ne regarde pas Dieu comme ton égal. Dieu est Dieu. Et ce que tu ne peux pas faire pour quelqu'un, lui peut le faire pour toi. Et parfois, déposer son fardeau, voilà, ça peut paraître trop simple par rapport à la nature de ce qui te pèse. Mais c'est suffisant pour que Dieu le prenne et qu'il ne pèse plus sur toi. Ne dis pas, ouais, mon truc, c'est compliqué. Ça, c'est une expression actuelle, ça. C'est compliqué. C'est trop lourd, c'est un cas spécial. Tu ne peux pas comprendre. Ouais, je suis d'accord, moi je ne peux pas comprendre. Parce que je suis quelqu'un comme toi. Mais Dieu est Dieu. Lui, il peut comprendre. Et il veut comprendre et il veut agir. Si, même si la réponse est simple, ça fonctionne et ça suffit avec Dieu. Un autre passage dans la Bible qui nous parle peu de manque d'humilité. C'est pas tout à fait de l'orgueil. Non, pas de la fierté, c'est juste un manque d'humilité. C'est Luc 18, les versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Alors, les pharisiens, c'était des religieux respectés. Et l'autre était publicain. Le publicain, c'était des laïcs, souvent méprisés, par exemple, les collecteurs d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme le gars là-bas, le publicain. Moi, je jeûne, combien de fois? Deux fois la semaine, vous vous rendez compte? Je donne la dîme de tous mes revenus, moi. » Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus de conclure, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. »
La réaction de Jésus, elle est étonnante, non? Le publicain sera exaucé et l'autre non. Comment se fait-ce? Parce que le pharisien, il ne dépose rien. Il étale ses bonnes œuvres et ses qualités. Et il repart aussi chargé. Il n'a rien déposé. Le publicain, lui, reconnaît tout de suite qu'il est pécheur et qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Et il dépose son fardeau. Et les deux repartent, mais seul le publicain est allégé du fardeau qu'il a déposé. Et parfois, nous prions un peu comme ça aussi. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas dans notre vie. Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait, et tu, auquel tu n'aurais pas remarqué, je te le rappelle. Hein? Mais nous ne faisons pas la démarche de déposer. Nous justifions, nous réclamons, nous montrons nos actes. Et nous ratons une pause minute. Et je repars chargé comme je suis venu. Alors que ce n'est pas l'objectif de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ne pars pas sans le repos de Dieu. N'étale pas de tout ce que tu fais. Un autre passage dans 1 Pierre 5, versets 5 à 7. Alors, ne voyez aucun conflit d'intérêt avec mes cheveux blancs. Hein? Vous, les jeunes, obéissez aux anciens. Les livres saints disent « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les petits. Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. » Et écoutez ça. « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. » C'est clair, non? Mais avant d'arriver à la promesse que Dieu prend soin de nous, il y a deux allusions indigestes. La soumission. Ah, mais quel vilain mot! Ça existe toujours ce truc-là? C'est toujours dans le dictionnaire? Non. On n'aime pas. Et l'humilité. Dieu prend soin d'insister avant d'offrir le repos. Sois vigilant, sinon ta fierté, ton orgueil va t'empêcher de déposer ton fardeau. Donc tu vas porter des choses que moi je veux porter pour toi. Mouillez-vous et déchargez-vous. Il y a un avant et un après. Et la notion de transférer quelque chose sur quelqu'un pour qu'il porte à notre place, ça nous revient. C'est à nous de le faire. Mettez tous vos soucis, mettez, c'est à l'impératif. Et ça implique une action de notre part. Personne ne viendra t'arracher ton fardeau. Hein. Si tu ne veux pas le déposer, il n'y a pas de souci, tu peux le garder. Dieu pourrait. Il pourrait, mais il attend ta démarche, ton action consciente pour accepter son offre. Et ton action volontaire de te décharger sur Dieu, sur notre papa. Bon, notre réflexe, nous sommes humains, c'est de chercher une épaule sur qui pleurer. Mais l'épaule sur qui on va pleurer, et je le fais aussi. Hein. Merci à tous ceux qui m'ont prêté leur épaule pour que je pleure dessus. Mais les personnes sur l'épaule de qui je vais pleurer, ils ont aussi leur fardeau. Ça fait du bien, mais c'est insuffisant. Car le seul qui a ce pouvoir de nous décharger de nos fardeaux, c'est Dieu. On doit s'encourager mutuellement à se décharger sur Dieu. Quand je viens pleurer sur ton épaule, dis-moi, tu n'es pas à la bonne adresse. Décharge-toi sur Dieu. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour moi. On a besoin de la relation des uns avec les autres, et ça, c'est vital. On prie les uns pour les autres, on s'écoute. On s'encourage, mais ça c'est ce que Dieu veut dans la famille de Dieu. Mais le transfert de tous nos soucis, de tout ce qui nous pèse et qui assombrit notre marche, doit se faire sur Dieu. Tout ce qui te semble compliqué, comme cette charge qui te paraît, bon, c'est un petit truc de rien du tout, alors tu dis, bon, je ne vais pas déranger Dieu pour ça. Mais bien sûr que tu peux, il attend que tu le fasses. Tout doit être déposé parce que ça ne doit pas peser sur toi. Et alors, le verset, la fin de ce verset, Dieu prend soin de vous. Dieu lui-même prend soin de vous. Tu te rends compte? Dieu prend soin de toi, si tu le laisses faire. Dieu prend soin de moi. À condition que tu te décharges, que je me décharge, et que je ne sois plus écrasé par la charge que je porte. Pareil pour toi. Parfois, ça nous arrive à tous, on est avec quelqu'un, ou en famille, ou quoi, puis vous voyez quelqu'un qui est... Ça va pas. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Je peux t'aider ?
Non, ça va, ça va.
Et est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Parce que la personne, elle vous dit, ça va, et elle se ferme comme une huître. Eh bien, Dieu, de la même façon, ne veut pas que nous nous fermions comme des huîtres. Il attend que nous déchargions notre fardeau. Il attend que je décharge mon fardeau pour pouvoir prendre soin de moi. Je ne sais pas si ça vous arrive de passer parfois devant une école à l'heure de la sortie. Je me souviens quand on était dans le public, on arrivait classe à 35, et le directeur était très... Donc il restait en rang par deux jusqu'à la grille, et dès qu'il franchissait la grille, pouf, il s'éparpillait partout, et il cherchait l'adulte qui venait le chercher, et puis il enlevait son cartable, hop. C'est vrai que les cartables étaient lourds, ils le sont sûrement encore. Mais le cartable de l'enfant devenait un oreiller pour l'adulte. La machine à laver de l'enfant devenait un oreiller pour l'adulte. Pourquoi ? Parce que l'adulte était capable de porter. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais pour que ça fonctionne, il faut que l'enfant accepte de se décharger. Si il s'accroche à son cartable, tu ne vas pas le lui arracher. Comment tu vas avoir une colère et voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, décharge. Prends ton cartable trop lourd, ton sac à dos trop lourd. Dépose. Dieu est Dieu. Et ce verset est très important parce que Dieu nous offre la solution à notre problématique de fardeau. Et pourtant, Dieu nous dit, et pourtant nous continuons à porter, il nous dit, attends, laisse, arrête. Je vais porter pour toi. Et nous lui faisons comprendre, t'inquiète Dieu, je vais porter moi-même. Peut-être que ça vous semble un peu, comment dire, la façon dont je le dis, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Dieu nous fait une proposition incroyable et nous choisissons de dire, oh non, c'est gentil, je vais rester esclave, je vais prendre des coups, j'ai l'habitude. Hein. C'est comme ça depuis que je suis né. Pourquoi c'est comme ça depuis que tu es né ? Dépose. Quand Jésus est mort sur la croix, tous nos fardeaux sont passés sur ses épaules. Mais nous, on continue à les porter. Ou alors, on peut faire autrement. Une autre histoire de la Bible, 1 Samuel 1, vous lirez aussi à la maison, c'est l'histoire de Anne. Anne, l'épouse d'Elkana. Elle avait un fardeau terrible. Je vous assure, pour avoir traversé des moments comme ça, c'est dur. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était son fardeau, c'était quelque chose qui lui pesait lourdement, d'autant plus qu'il y avait Péina. Péina qui avait des enfants autant qu'elle en voulait et qui méprisait. Hein. Parce qu'en fait, je pense que quelque part, Elkanah avait peut-être une petite préférence pour Anne, c'était sa première épouse. Péina, elle berçait son bébé là sous le regard de Anne. C'était dur. Et vous savez, nous vivons dans un monde qui n'a rien à voir avec celui des jours. Hein. Nous savons que nous sommes dans l'équipe de Dieu. Alors prenons-en tous les bénéfices. Profitez-en. Nous sommes dans l'équipe de Dieu. Mais autour de nous, ils ne sont pas inspirés par la même chose que nous. Ils sont là, vous savez, vous avez une petite plaie, alors ils sont avec les couteaux, là, ils triturent, et un peu de sel, ça cautérise. Oui, et ça fait souffrir. Hein, porter son fardeau. Et ce jour-là, c'était un jour de fête, c'était une fête, des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire. Et elle avait un tel nœud sur l'estomac qu'elle n'arrivait rien à avaler. Par contre, ses paupières ne pouvaient plus contenir le flot de ses larmes. Alors, elle s'est levée et elle est partie. Elle est partie bouder dans un coin ? Non. Elle est allée au temple. Et elle s'est dit, voilà, maintenant... Je vais décharger mon cœur. Je vais décharger mon cœur devant Dieu. Et là, elle s'est mise à prier. Mais vous savez, elle priait pas comme le pharisien faisait. Elle priait. Et Élie, qui la regardait du coin de l'œil, il s'est dit, oulala, trop de pénurie là, hein. Et peut-être même un peu de schnapp. Ça va pas faire petite dame, hein. Il faut pas faire ça ici, hein. Et on lui a dit, non, mais voilà. mon cœur est libre, je vide devant Dieu, je le dépose, je le décharge. Et alors il lui a donné sa bénédiction. Et Anne est sortie, elle est allée retrouver les siens. Rien n'avait changé concrètement. Elle n'était ni enceinte ni maman. Pernin la regardait toujours avec mépris. Mais Anne mangea et son visage ne fut plus le même. À partir du moment où Anne a déposé son fardeau, elle n'a pas eu besoin d'attendre une preuve quelconque. Elle dépose, elle mange et son visage n'est plus le même. Et c'est seulement après qu'elle aura la promesse d'une grossesse. Et d'ailleurs, vous savez, Dieu ne fait pas les choses à moitié parce qu'elle a eu 6 enfants avec Samuel. Hein? Donc, voilà. Mais elle dépose. Le moment où elle dépose, le poids s'en va. Elle n'a pas eu besoin de réponse. Elle n'a pas fait un test de grossesse tout de suite. Non, non. Elle avait remis son fardeau. Voilà. Elle ne porte plus et ça change tout. Et il y a des choses que tu dois déposer parce que ça te pèse, parce que ça t'empêche d'avancer, parce que ça complique tes journées qui sont déjà assez sans avoir apporté des choses que... Voilà, toutes ces choses. Et vraiment, je crois qu'il y a une invitation ce matin à ce que chacun puisse identifier et déposer ce qu'il porte. Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas libre? Qu'est-ce qui t'empêche parfois d'être pleinement dans la joie et dans la paix? Tu dois l'identifier et tu dois le déposer. Et comprendre instantanément, ton visage va changer parce que tu ne porteras plus ton fardeau. Vous savez, Jésus, quand il est arrivé juste avant la crucifixion, ça ne devait pas être facile pour lui. Il savait. Il savait ce qu'il allait vivre. Et alors que nous, on a du mal à imaginer, mais lui, il savait. Et il était mal, il était mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné, il a prié. Et je résume en une phrase que nous pouvons nous approprier. Ce qu'il a dit, c'est comme s'il disait, je dépose tout devant toi, ô Dieu, tu es le pilote de ma vie. Ce que tu m'iras, je le ferai. Où tu iras, j'irai. Sur ton fardeau, il est non seulement lourd, mais en plus il est inutile, tu le portes pour rien, parce que depuis le temps que tu le portes, il n'y a pas de solution. Donc ça veut dire que quelque part, voilà, ça ne fait rien avancer. Alors, c'est comme si tu invitais Jésus dans ta voiture. Tu l'assieds à côté passager, ceinture de sécurité, voilà, Jésus, tu vois, là, peut-être, là, tu calmes bien ta tête, et tu es bien. Ça va? Ça va, dit Jésus. Et puis, tu reprends le volant, les pédales, la vitesse, la direction, et tout, et surtout, un virage difficile à négocier, surtout que tu vas un peu vite. Et là, ton réflexe, c'est de dire, Seigneur, au secours! Et là, depuis son siège passager, Jésus va te dire, ben, écoute, ok, laisse-moi conduire. Laisse-moi conduire. Dépose ton fardeau. Abandonne le volant pour le laisser à Jésus. Il va conduire et diriger. J'aime beaucoup David. Et ce verset, je l'ai lu il y a une dizaine de jours. Et je préparais ce message. Et jamais je l'avais remarqué, ce verset. Pourtant, je l'ai lu seulement souvent. Dans le psaume 55, 23, là, c'est ce qu'il dit. Pourtant, David, il a galéré hein, dans sa vie. Et il dit ceci, psaume 55, 23. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi, il te fera tenir debout. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéisse. Dépose. C'est la seule chose que tu as à faire. Et lui, il te fera tenir debout, il ne te laissera jamais glisser. Ce matin, je te dis, pourquoi ne déposes-tu pas ton fardeau? Alors que c'est ce que je t'invite à faire. Vous savez, déposer un fardeau, enfin, quand on est lourd et encombré, que vous avez des valises, des sacs et tout, si vous ratez une marche, vous n'arrivez pas à vous rattraper parce que vous êtes encombré. Si vous roulez, si votre pied marche sur une pierre qui roule, vous ne pouvez pas vous rattraper parce que vous êtes encombré. Si la tempête souffle, vous ne pouvez pas vous protéger parce que vous êtes encombré. Je ne tiendrai que si j'ai déposé mon chargement encombré. Je pourrais alors entendre la voix de Dieu et je pourrais suivre ses conseils qui me gardent debout. Notre, c'est pas grave, ça va aller, ça va le faire. Moi, je le dis souvent. Mais ça ne marche pas, ça ne joue pas. C'est pas la solution, parce que ça va peut-être le faire dans l'instant qui suit, mais c'est pas quelque chose qui est efficace et définitif. Dieu me demande de tout lui donner pour porter à ma place, à ta place. C'est notre sécurité. Il veut notre sécurité. Le problème, c'est pas d'avoir des fardeaux. Nous culpabilisons pas quand quelque chose nous pèse. Hein. Alors on vomit, on a honte, on ne veut pas en parler. Et ce processus nous éloigne de ce qu'on doit faire. Quand quelque chose vient m'alourdir, je dois le déposer. Et si ce verset-là, dans la Bible, ça veut dire que Dieu savait que l'un ou l'autre, on se heurterait à cette écueil. Hein. Le problème, c'est de continuer à porter quelque chose qu'il veut porter à ta place, à ma place. Alors ce matin, ma question, c'est est-ce que tu es prêt à accepter son offre, à obéir ? Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Alors je vous propose un temps où vous venez à rentrer dans votre bulle, juste vous Dieu, oubliez tout ce qui est autour. Et vraiment déposer dans sa main, déposer dans sa main ouverte, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous fait mal. Vos peurs, vos blessures, vos attentes, votre manque de pardon, vos addictions, vos incompréhensions. Ne soyez pas freinés par la simplicité de la chose. Mais comme homme, comme Jésus, acceptons la main tendue de Dieu. Soyons juste transparents avec lui. Déposons-lui ces choses parce qu'il y a une assurance, c'est que quand tu déposes ce que tu portes, lui prend soin de toi. Sois assuré que tu ne déposes, que quoi que tu déposes ce matin, Dieu va prendre soin de toi. Je vous invite à ce temps vraiment, où chacun rentre dans sa vie. Ne t'occupe pas de ce qui est autour de toi. Juste toi et Dieu. Et dépose. Dépose dans sa main.